Quand je fais un rêve.
Ils sont tous, comme on disait à l'époque, ils brandissent le drapeau rouge pour lutter contre le drapeau rouge. Mais qui est le vrai drapeau? Et c'est ça le problème. Il y a un moment où on lâche aussi des pulsions de mort dans la société.
Il y a un masque de Mao.
Mao always exists. Mao is always alive, especially in the lower class.
La Chine à l'ombre de Mao. Chongqing, Bosilai n'avait qu'à bien se tenir.
Par Alain Lefkovitch.
La Grande Traversée.
La Grande Traversée.
Direction la municipalité autonome de la province du Sichuan, Chongqing, le Chicago chinois. La porte vers l'ouest, grande comme l'Autriche, qui abrite près de 34 millions d'habitants, est l'une des villes qui croît le plus vite au monde. Il y a 2 ans, le gouvernement central y a même installé une zone économique spéciale de 1200 km² baptisée Liangtiang, les deux fleuves, pour dynamiser les régions alentours représentant un marché intérieur de 240 millions de personnes. C'est dans ce nouveau temple dédié au capitalisme que s'est incarné le renouveau maoïste sous l'impulsion de l'étoile montante du parti communiste chinois d'alors, Bosilai, numéro 1 de la ville. De décembre 2007 à mars 2012, le charismatique Prince Rouge, fils de Bo Yibo, l'un des 8 immortels du parti communiste chinois, va y imposer avec Wang Litun, vice-maire de la ville et chef de la police, une politique digne des temps révolus de la révolution culturelle. Ancien membre du Comité d'Action Unie, l'une des factions les plus extrêmes des gardes rouges et surtout l'une des plus violentes, Bosilai va opérer un virage ultra-conservateur crypto-maoïste et mettre au pas toute la population à travers notamment la campagne appelée Changrong, les champs rouges. Dans une Chine rongée par la corruption et la mafia, les déclarations de Bosilai ont trouvé un écho plus que favorable auprès d'une majorité de Chinois confrontés à l'injustice, à l'arbitraire, à l'incurie et aux insupportables inégalités sociales. Il met les bouchées doubles pour mettre en place une politique sociale en faveur des plus démunis, comme l'accès au logement par exemple. Il va réformer le système du hukou, le permis de résidence qui empêche les Chinois nés à la campagne de venir s'installer en ville. Il va lutter contre la corruption et les mafias. Et il va aider les pétitionnaires à trouver des solutions légales à leurs revendications. Salué alors par les élites politiques de Pékin et notamment par l'ancien Premier ministre Wen Jiabao, qui déclarait que l'égalité et la justice sociale devaient briller plus encore que le soleil. Chongqing devient un modèle de vertu. 2000 parrains de la mafia sont jetés en prison, tandis que les logements sociaux se construisent à tour de bras. Si la majorité des habitants de la ville saluent l'efficacité de Bosilai, les méthodes expéditives qu'il utilise déplaisent. Combien d'avocats ont été jetés en prison? Combien de citoyens ont été internés arbitrairement dans les camps de travail? Mais Bosilai voit grand, tandis que son rêve de devenir vizir à la place du vizir inquiète Pékin qui organise sa disgrâce. Une chute qui incarne sans aucun doute les luttes intestines au sein même du Parti communiste chinois, entre les maoïstes orthodoxes et les réformateurs qui se sont exacerbés quelques mois avant la nomination du nouvel homme fort du pays, le président Xi Jinping. Depuis le limogeage de Bo, les panneaux publics fraîchement installés dans la ville interdisent les champs rouges et les publicités ont remplacé les messages de propagande. Ses partisans affirment que le taux de criminalité a déjà augmenté. Dans les rues de la ville, les sentiments sont partagés. On l'adule et on le conspue. Car pour faire du bien aux plus démunis, il a dû faire du mal. Dans cette ville titanesque au climat subtropical humide, la pollution est telle que nous pouvons fixer le soleil sans plisser les yeux.
Là où nous sommes, c'est le vieux Chongqing. Mais cela ne se voit pas tellement parce que tous les vieux quartiers ont été détruits. Aujourd'hui, il n'y a plus que des gratte-ciels.
Combien d'années ça a pris pour élargir cette ville plus de 100 fois?
Depuis 1997, quand la ville est devenue une municipalité directement contrôlée par le gouvernement central. Avant, elle était vraiment petite. Les autorités de la ville souhaitent que de plus en plus de gens viennent s'installer ici.
Pourquoi? C'est dingue?
Non, ce n'est pas du tout dingue. C'est parce que c'est une métropole. On compte dans le centre de Chongqing 8 millions d'habitants, et dans le grand Chongqing, on dit qu'il y en aurait 32 millions.
À peine arrivés en ville, nous partons à la rencontre des plus fervents supporters du déchu Bocilai. Mais admirer l'ancien maître de la ville est désormais dangereux. La nouvelle administration municipale souhaite définitivement tourner la page d'une histoire qui a fait trembler Pékin. Égare à ceux qui n'auraient pas compris le message.
Nous venons d'arriver au centre du district de Jiangbei, qui veut dire au nord de la rivière. Il s'agit de la rivière Jialing. Elle sépare les différents districts de la ville, ainsi que le fleuve Yangtzechang. Là où nous sommes, c'est la plus grande zone commerciale de la ville. Et maintenant, nous allons entrer dans un restaurant qui fait revivre la culture rouge. On y vient pour sa spécialité, le ragoût. Ce genre de restaurant est très populaire ici. Il y en a beaucoup. Les serveuses sont vêtues de l'uniforme vert qu'on portait pendant la Révolution culturelle. Elles ont la casquette avec l'étoile rouge et portent le badge à l'effigie de Mao. Elles nous adressent des camarades pour prendre les commandes.
Je m'appelle Madame Su. Je vis en bordure de la ville, dans la banlieue. Avant, c'était la campagne. Mais avec la politique d'urbanisation et d'expansion menée par les autorités, les villages et les vieilles fermes ont été démolis. Ça s'est fait d'une manière très violente. Quand les démolisseurs sont venus, ils ont pris toutes nos affaires et les ont jetées comme ça. Je me souviens de cette dame de 70 ans qui a brutalement été jetée dans la rue. Beaucoup ont subi des coups. Ils ont été aidés par des gens qui appartenaient à la mafia. Nous n'avons pratiquement reçu aucune aide pour pouvoir nous installer ailleurs. Mais quand Bocilai est arrivé au pouvoir, il a réglé tous nos problèmes. Il nous a correctement dédommagés. Il a mis à notre disposition des logements très peu chers et très bien équipés. C'est pour ça que tout le monde a apprécié Bocilai.
C'est quoi votre histoire à vous? Vous étiez travailleur dans une mine.
À la fin des années 90, beaucoup d'ouvriers de ma génération ont été licenciés. On travaillait pour les entreprises d'État et on n'avait aucune qualification. Nous ne connaissions qu'un processus de travail qui ne convenait plus. Je me suis retrouvée sans emploi, sans domicile. J'avais 40 ans. J'ai fait un peu de ménage par-ci, par-là. Mes conditions d'existence se sont considérablement améliorées au cours des 4 années de gouvernance de Bocilai. On a pu accéder aux soins gratuitement. Mais depuis qu'il a été viré du pouvoir, les soins sont redevenus chers.
Il y a beaucoup de gens comme vous ici à Chongqing.
Des gens comme moi, des ouvriers qui ont perdu leur emploi à la fin des années 90, il y en a beaucoup. Moi, j'ai 4 frères et tous vivent comme moi, dans les mêmes conditions. Dans l'entreprise d'État où je travaillais, la scierie de Chongqing, nous étions 300 ouvriers à avoir été licenciés, mais il ne faut pas oublier les 600 officiels qui y sont restés.
Ancien jeune instruit envoyé à la campagne pendant la Révolution culturelle, Tsai Chungguo, ancien professeur de philosophie, vit aujourd'hui à Hong Kong, où il travaille pour le China Labour Bulletin, le bulletin des travailleurs chinois. et c'est quotidiennement qu'il tente de défendre la masse des Chinois oppressés par un système arbitraire et corrompu en œuvrant pour la création de syndicats libres et indépendants en Chine continentale.
C'est aussi une forme de protestation, une forme de revendication vis-à-vis du gouvernement central. Il voulait plus d'autonomie politique. Aujourd'hui, les Chinois qui disent toujours que l'État ne fait rien pour le problème de tous les genres. Le gouvernement à Pékin, souvent encerclé par les pétitionnaires qui sont venus de tout le coin de Chine. Ça veut dire le gouvernement local qui ne font pas leur boulot. Il avait toujours le problème de suicide, les Chinois qui ont perdu leur maison, qui s'immolent, de problèmes de violence dans les hôpitaux. Oui, il y a la croissance économique, mais ce genre de problème, ou en plus de la pollution, c'est insupportable. Et le problème de sécurité alimentaire, tout le monde peur. Ce n'est pas le problème de démocratie, c'est le problème d'efficacité d'un État. L'État ne fait rien, tellement de problèmes là, et les Chinois doivent se débrouiller tout seuls.
Je m'appelle Monsieur
Han.
Je travaillais aussi dans une entreprise nationale. Mais j'ai été mis à la porte à la fin des années 90, lorsque les réformes économiques ont été mises en place. J'ai créé ma propre entreprise et je suis devenu membre du Parti communiste. Je me suis installé à Chongqing depuis cette époque. J'ai donc été témoin de ces changements. Je me souviens de la fermeture de l'acierie. Les ouvriers avaient tenté de se battre pour leurs droits, mais avaient été violemment réprimés. Il y avait du sang partout. Je connais bien les problèmes de cette ville. Chongqing est une des quatre villes du pays administrées directement par le gouvernement central. C'est la ville la plus peuplée du pays, avec 32 millions d'habitants, dont les deux tiers vivent en dessous du seuil de pauvreté. Bo Xilai a mis en place une politique sociale s'inspirant de celle du Parti communiste. À Chongqing, il ne faut pas oublier les nombreuses minorités nationales qui s'y sont installées.
Il y a beaucoup de gens qui étaient illégaux aussi. Bo Xilai a réformé cette politique du hukou. Comment ça s'est passé?
Il y a toujours un problème avec le hukou. Mais à l'époque de Bo Xilai, ce n'était pas aussi grave que ça ne l'est aujourd'hui. Quand le gouvernement a mis en place sa politique d'ouverture des marchés, le problème du hukou est devenu un système de caste injuste à l'égard de ceux qui vivaient dans les campagnes. Ils n'avaient ni le droit de venir travailler en ville, ni le droit d'y loger, et encore moins d'y faire des études. Mais lorsque Bo Xilai a pris ses fonctions, il a tout réformé. Il a effacé les différences entre la ville et la campagne. Il a incité les habitants des zones rurales à venir vivre en ville. Son plan visait à intégrer, en 5 ans, 6,8 millions de personnes venant de ces zones, en leur donnant un hukou. La politique de Bo Xilai avait 5 objectifs. Le premier était d'éliminer l'insécurité. Le second était de faire de Chongqing une ville écologique agréable à vivre. Le troisième était d'améliorer la santé des habitants. Le quatrième était de fluidifier la circulation. Et le cinquième était de renforcer les bonnes relations entre les officiels et les habitants des zones rurales, afin d'améliorer leurs conditions de vie. sur la base de « un citadin aide un pauvre des zones rurales pour le rendre plus riche ». C'est ça la politique du Parti communiste.
Nous
allons visiter un de ces logements.
Dans cette
cité de logements sociaux, il y a 10 immeubles. Chaque immeuble possède 28 étages et il y a 10 familles par étage. Comme vous pouvez le voir, cet endroit est très joli. Il y a un petit jardin, des fleurs. C'est élégant. C'est le printemps et tout le monde est très heureux d'emménager ici.
Alors, combien de temps ce monsieur a attendu pour avoir un logement social ?
Un peu moins d'un an. Les candidats pour l'obtention d'un de ces logements sont choisis par un système de loterie.
Là, on est coincé dans un ascenseur avec des gens qui ont des meubles sur la tête. Il y a une vingtaine de personnes avec des échelles, des meubles. Et visiblement, on va au 21e étage.
Chaque mois, je paye un peu plus de 80 euros pour la location et quelques euros de plus pour les charges collectives. Je paye 20 euros de moins par rapport à mon ancien logement. Avant, j'habitais un vieux bâtiment délabré où l'eau et l'électricité me coûtaient très cher. L'avantage ici, c'est que je pourrais acheter cet appartement d'ici 5 ans et que je n'aurais qu'à payer la différence entre le prix de l'appartement et tous les loyers que j'aurais versés d'ici là. Dans un futur proche, beaucoup de gens vont venir s'installer ici. On est heureux ici.
L'air est frais et tout est bien.
Je pose la question, vous avez en place cette politique du Hongchang. Vous deviez tous dans cette ville apprendre 36 chansons rouges. C'est quoi votre chanson rouge préférée ?
No communist party, no China.
Pas de Chine nouvelle sans parti communiste.
Ta
没有共产党就没有新中国。
我姓李，叫李卫东，保卫的卫，东方的东。
His name is 李卫东。
我是重庆毛泽东学会的，因为毛泽东学会是我们在全国
在北京开会
人倡导，然后博士。
Ce comité d'études est composé de citoyens ordinaires. Le premier comité a été créé à Pékin et on en trouve maintenant dans toutes les villes de Chine.
作为毛泽东学会这帮子呢，对。
Moi et tous les membres du comité pensons que Bocilai est devenu gouverneur parce qu'il faisait revivre la culture rouge avec ses chants révolutionnaires. Il ressuscitait la grande épopée rouge. Il a encouragé la population à relire Lénine et tous les ouvrages marxistes. En menant une telle politique, il a considérablement amélioré la spiritualité des habitants. Avant Beau, je pensais que l'argent pouvait tout permettre. Mais maintenant, je sais que ce n'est pas vrai.
Alors vous, monsieur, vous pouvez vous présenter ?
Je m'appelle Monsieur He. Je travaillais pour une entreprise d'État et aujourd'hui je suis à la retraite. Ce que je veux dire, c'est que grâce à Bocilai, les habitants ont pu avoir un accès privilégié à la santé. Et je ne parle pas uniquement de la santé physique, mais également de la santé psychologique. Au cours des 30 dernières années de réforme, Chongqing était devenue une ville chaotique et dangereuse. La mafia s'y était installée massivement. Les vols dans les rues s'étaient généralisés, tout comme les cambriolages. La prostitution, la drogue, le jeu s'étaient considérablement développés au point que plus personne n'osait sortir le soir. Beaucoup de gens ont commencé à dire du mal du Parti communiste et même à dénigrer le président Mao. Et puis, les écarts entre les revenus se sont creusés. La population a commencé à croire que le gouvernement l'avait abandonné. Mais quand Bocilai est arrivé et qu'il a obligé les gens à chanter ses chants rouges, qu'il a lutté contre la mafia, alors les gens ont retrouvé la foi. Avant, les gens ne chantaient que des chansons bourgeoises, des mauvaises chansons. En chantant des chants rouges, les gens ont retrouvé leur croyance. Mao a remis au goût du jour le socialisme et les gens ont recommencé à dire du bien du Parti communiste. Leur morale s'est améliorée. Si on continue dans cette voie, je pense que la Chine peut se préparer à un avenir radieux. Bocilai n'a pas simplement dit de bonnes choses, il en a fait. Pour ma part, auparavant, je vivais tout en bas de la société. Et grâce à Bocilai, ma vie s'est améliorée.
Est-ce du folklore ? Est-ce une terrible réalité ?
Yun ne saurait en aucun cas regretter le départ de Bocilai. Il a fait partie des milliers de victimes de sa politique violente et arbitraire. Pour Yun, ça s'est terminé au Lao Chao, le camp de rééducation par le travail.
Je m'appelle Hong Yuan et j'ai 30 ans. En 2009, j'ai acheté une maison. Mais le vendeur a refusé de me fournir le contrat légal dont j'avais besoin pour prouver que j'étais le propriétaire de cette maison.
J'ai parlé de mon cas sur Internet et je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul dans ce cas. J'ai dit qu'il fallait profiter de la venue à Chongqing d'officiels de haut rang pour faire valoir nos droits. Le 2 décembre 2010, j'ai écrit un post rapportant l'affaire. Deux jours plus tard, la police m'a appelé. Il fallait que je me rende au commissariat. J'ai été interrogé pendant 4 jours, enfermé dans une cellule pendant 8 jours et condamné à 1 an et 3 mois de camp de travail.
Lei Dongfang est un jeune et dynamique avocat. Grâce à sa pugnacité, beaucoup d'internés des Lao Tiao de Bosilai sont désormais libres.
De 2009
à 2012, au cours de ces 3 années, j'ai vu arriver près de 15 000 prisonniers, ce qui fait
5 000 par an.
Si on compare par rapport à ce qui se passe dans les autres villes de Chine, Bosilai et Wanlitun ont fait enfermer 4 fois plus de gens dans ces camps.
Zhang Lun, économiste et sociologue.
L'image de Mao, le discours de Mao, la façon de gouverner de Mao, aujourd'hui, c'est un instrument de gouvernance de côté dur pour face toutes ces contestations sociales. En chinois, tous ces dirigeants jouaient souvent carotte, bâton. Mao, maintenant, aujourd'hui, c'est un bâton. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas l'abandonner. Parce que quand on tient ce bâton, on peut écraser certaines protestations, contestations, critiques au nom du régime, au nom du pouvoir, etc. C'est une raison très, très de fond, de très, très importante.
I'm just explaining to Mr. Han what we are looking for.
J'ai expliqué à Monsieur Han le sujet du documentaire. Nous étions dans le lobby de l'hôtel et nous lui avons demandé où il préférait faire l'interview. Il nous a demandé de trouver un endroit plutôt calme et discret. Nous avons choisi le salon de thé de l'hôtel où les gens viennent pour jouer à des jeux d'argent ou pour jouer aux cartes en buvant du thé.
Drinking tea also, so we are in the small room and talking to Mr. Han.
Maybe it's too dangerous and too sensitive topic now.
我以前在一个媒体当记者，做过记者的。
Je suis un ancien journaliste. J'ai pris ma retraite en 2008.
Alors vous, à l'époque, comment vous avez réagi à la mise en place de cette politique de Hong Kong? Vous avez eu peur?
当时我一看他那个报纸。
Quand j'ai lu pour la première fois les déclarations de Bosilai dans le journal, j'ai dit à mes amis, les gardes rouges sont de retour en ville. Il utilisait une dialectique très marxiste et une rhétorique très maoïste. Il s'exprimait comme les gardes rouges à l'époque de la révolution culturelle. Et plus le temps passait, plus il devenait évident qu'il était dans cette logique. C'est comme ce qu'il a déclaré le 9 mars de l'année dernière. Il était très en colère et il a dit une phrase qui utilisait les mêmes codes que ceux des gardes rouges. Il a dit « Nous devons nous battre contre les monstres. Nous ne devons jamais nous rendre face à ces monstres. » Il a aussi utilisé des termes très marxistes, du genre « se battre c'est bien, être dans la lutte c'est le bonheur ».
Comment la presse a réagi? Comment la population de Chongqing a réagi?
Quand il a demandé à la population de faire revivre les champs rouges, La plupart des habitants ont accepté et ils avaient l'air contents parce que cela correspondait à la façon dont le Parti communiste faisait intervenir la politique dans la vie quotidienne des gens. La politique du parti, c'est tous les jours. On la chante et on vit avec. La plupart des gens ont apprécié. La plupart des journalistes ont également bien réagi. Parce que Beausilaï est un supporter des plus grands médias, comme le quotidien du peuple. Pour les journalistes locaux, ça n'a pas posé de problème. Les champs rouges font partie de leur existence, et donc ils ont été d'accord avec cette politique. Mais il y a une chose qui était différente par rapport à ce qui se faisait avant. La propagande disposait de groupes de chanteurs sur les grandes places de la ville pour inciter les gens à chanter avec eux. À chaque événement, ces groupes chantaient en incitant la population à faire pareil. La plupart des gens n'y voyaient aucune objection. Ce mouvement de chants rouges n'avait plus existé depuis la Révolution culturelle, parce que l'objectif de ce mouvement n'avait plus rien à voir avec la politique d'ouverture économique du pays.
Alors, les supporters de Beau disent qu'il a fait des choses extraordinaires. Il a réformé le Rouco, il a apporté des réponses à la question du logement social, il a permis aux plus pauvres de vivre mieux. Qu'est-ce que vous pensez de ce que les supporters de Beau disent ?
Bien sûr, il a fait beaucoup de choses bien pour les pauvres et pour les classes les plus défavorisées, mais il l'a fait en employant la méthode de Mao. Combattre les riches, leur prendre leur argent pour le donner aux pauvres, prendre la terre aux propriétaires et la donner à ceux qui n'en avaient pas. C'est facile de gagner les cœurs de ceux qui n'ont rien et qui sont insatisfaits. On leur donne exactement ce qu'ils veulent, même juste un peu d'argent. Oui, il pouvait être satisfait, mais il ne savait pas que toute cette politique se réalisait d'une façon peu orthodoxe et pas du tout légale. Il y a un riche et il y a un pauvre, et moi je suis fort. Je prends aux riches pour donner aux pauvres qui pensent que je suis un type bien. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Moralement, ce n'est pas juste. Pourtant, en Chine, beaucoup de gens sans grande connaissance pensent qu'il est leur sauveur.
Because China is not a legal country, there's no rule of law in China.
De toute façon, rien n'est légal en Chine. Ce n'est pas un état de droit.
Mao was our universe, our God. And there was nothing else but to follow him. I was taught to write Long Live Chairman Mao before I was taught to write my own name.
Ce n'est qu'un témoignage, certes, mais il est capital pour comprendre la Chine. Les enfants apprennent à aimer les amis de la Chine et à détester les ennemis de classe, propriétaires fonciers ou bureaucratiques, réactionnaires, impérialistes américains. Aussi farouches que le furent leurs aînés de la Révolution, ils constituent la pépinière de cette Chine qui dans 30 ans étonnera le monde.
Je crois pas, il est vraiment maoïste, il voulait vraiment profiter, utiliser, manipuler maoïste pour, afin d'arriver au sommet du pouvoir. Alors, il est écarté pour deux raisons. Premièrement, c'est le plus important, il s'affichait vraiment sans embâche. C'est ambition. Il fait tout pour montrer qu'il est meilleur parmi les meilleurs. Ça, c'est vraiment violer le règlement tacite du Parti communiste. Voilà, il a été finalement d'abord respecté par beaucoup de dirigeants, en fait, finalement abandonné par la plupart des membres du bureau politique. Donc, malgré l'importance du rôle de son père qui était vétéran du Parti communiste, un des amis, on peut dire, de Liu Shaoqi, de Mao Zedong. Il était écarté. La deuxième raison, c'est qu'il utilise, manipule les maoïstes de façon mobilisée, des gens qui sont pendus le drapeau rouge pour chanter chansons rouges. Cette image est horrible, qui sont identiques que l'image de la société chinoise pendant la révolution culturelle. Ça fait peur quand même pour beaucoup, beaucoup de Chinois qui ont subi la persécution atroce, y compris les enfants de hauts dirigeants qui ont été virés par Mao. Ils contrôlent strictement la presse à Chongqing, la télévision à Chongqing. Il n'y a que la mission rouge. Il contrôle la presse comme ça. Tous les journalistes détestent Beausoleil aussi. Tous les avocats protestaient contre Beausoleil avant la chute de Beausoleil. Parce que c'est le premier dirigeant qui carrément arrêtait avocats qui ne voulaient que défendre leurs clients. Alors, finalement, la plupart des journalistes, des avocats, se mobilisaient contre lui. La plupart des gens, des Chinois, qui ont vécu le cauchemar pendant la révolution culturelle, étaient réveillés par lui, sont contre lui. C'était des gens de base. La troisième raison, quand même, était importante, malgré l'opposition forte. Beausoleil était au pouvoir, mais malheureusement, son copain, son assistant plus important, Monsieur Wang Lijun, qui était chef de la police de Chongqing municipal, bras droit de Beausoleil, lui trahit, est allé à le consulat américain à Chengdu. Lui dénoncer de façon vraiment spectaculaire. Alors, voilà, principalement, c'est les trois raisons pour lesquelles il a été écarté le pouvoir.
街上街上不好，要换换，哎，他威黑的人，他看西岐都乱了，上一次来都失败了，乱了都失败了，被黑的人来看，黑的人有心说，有心说，领导乱，这个谁都是乱的，哎呀，反正建议看，反正，哎，一样的，那，那家伙很厉害嘛。Ça ne les arrange pas trop de marcher avec vous dans la rue. Parce que c'est dangereux pour eux de parler de ça. Ils sont mal vus parce qu'ils soutiennent Beausoleil. Il dit que si on se fait arrêter par un officier de la sécurité nationale, vous risquez de vous faire confisquer et briser votre matériel.
Est-ce que c'est dangereux aujourd'hui de soutenir Beausoleil en Chongqing?
Oui, oui. On soutient Beausoleil, mais de façon clandestine. Le gouvernement ne veut pas qu'on soutienne Beausoleil depuis qu'il a été destitué. C'est un sujet très sensible.
Mais en même temps, Beausoleil a été membre du Parti communiste et tous les dirigeants du Parti communiste chinois sont venus ici saluer sa politique.
All the people support, all the officials support Bo, they have
tous les officiels qui ont exprimé leur soutien ont été virés. Il y a peu de temps, un officiel de Chongqing qui s'appelait Chu Ming a été limogé parce qu'il soutenait Beausoleil. Tous ceux qui font de la politique ici à Chongqing sont obligés de déclarer publiquement leur rejet de Beausoleil.
Cette ville qui devait être la porte de la conquête de l'Ouest, c'est devenu le Far West.
Oui,
c'est exactement comme les cow-boys avec deux bandes mafieuses qui s'affrontent à coups de pistolet dans la rue. C'est redevenu comme avant, avant que Bosilai n'accède au pouvoir.
Cette place. Where are we and what is this plaza?
We are in the center of Chongqing and this plaza.
Nous sommes au centre de Chongqing et cette place est vraiment la marque de fabrique de la ville. Ce vieux monument a été construit en 1950 pour célébrer la fin de la guerre et la fondation de la République populaire de Chine. Et c'est là que se trouvent toutes les boutiques des plus grandes marques du monde.
C'est ici que régulièrement les probos viennent se réunir.
Oui, c'est une très grande place et c'est là que les gens se rassemblent pour manifester. Là, on assiste à un spectacle qui fait la promotion d'un nouveau complexe d'habitation. Il y a des gens qui dansent, vêtus d'habits traditionnels de fête.
There's a woman presenter coming.
Il y a une femme qui monte sur la scène pour présenter le projet.
I feel we are in the
ça me fait penser à la remise des Oscars, une cérémonie des awards.
Award ceremony.
Je m'appelle Li Chuan.
Si
vous consultez mon blog sur Weibo, vous pourrez y lire hier, avocat non connu, aujourd'hui, avocat célèbre sans droit d'exercer. Tout cela pour dire qu'avant, j'étais avocat, mais interné pendant un an par les autorités de la ville de Chongqing. Aujourd'hui, je suis libre, mais je ne peux plus exercer ma profession de manière officielle. Je ne peux plus me présenter devant une cour pour défendre mes clients. Malgré cela, je continue à le faire de façon clandestine. J'organise leur défense, mais je ne peux pas me présenter devant un tribunal.
Alors pourquoi avez-vous été victime de Bosilai et pourquoi avez-vous été mis en prison pendant un an?
À Chongqing, j'ai défendu des accusés dans le cadre d'une affaire que les officiels de la ville, notamment Wang Litun, avaient médiatisée dans un but essentiellement politique. Au cours de mon enquête, j'ai découvert que beaucoup de témoins avaient été interrogés de façon très cruelle et inhumaine par la police. C'est ce que j'ai voulu dénoncer, mais cela n'a pas plu du tout. Wang Litun s'est servi de cette affaire pour menacer tout avocat qui oserait dénoncer les pratiques illégales dont la police fait usage. J'ai été arrêté sans que personne n'ait pu protester.
C'était quoi cette affaire que vous défendiez et qui vous a coûté un an de privation de liberté?
Je défendais un homme qui s'appelait Gong Gangmoa. qu'on avait accusé d'être à la tête d'une organisation mafieuse. Il avait été arrêté, ainsi que 34 autres personnes faisant soi-disant partie de son organisation. Parmi ces 34 personnes, il y avait des meurtriers, des trafiquants d'armes et de drogue, mais pas tous. La police n'a pas fait de distinction. Et en ce qui concerne Gong Gang Moa, les chefs d'accusation n'étaient pas entièrement fondés. Lorsque j'ai pris sa défense, j'ai découvert les procédures policières. Ils l'ont suspendu au plafond d'une cellule pendant 8 jours, avec mauvais traitement. Il a fini par devoir reconnaître qu'il avait commandité des crimes dont on voulait bien l'accuser. J'ai essayé de dénoncer publiquement les actes de torture dont il avait été victime. Et puis, normalement, lorsqu'un avocat rend visite à son client, la police n'assiste pas à la rencontre. Ce qui n'avait pas été le cas. Elle avait été omniprésente. Finalement, j'ai été arrêté à mon tour. Gong Gang Moa a été reconnu coupable d'avoir été la tête pensante du clan parce qu'il était le plus riche. Cela a permis au pouvoir de confisquer tout son argent.
Alors vous êtes jeté en prison. Ça se passe comment pour vous en prison? Vous êtes maltraité? Vous êtes traité comme un prisonnier ordinaire?
Ni l'un ni l'autre. Je n'ai pas été maltraité. J'ai plutôt eu un traitement de faveur. J'ai été enfermé dans une cellule de luxe. C'est difficile à croire, mais c'était une prison dorée. Le sol était recouvert d'un tapis de yak. J'avais 2 climatiseurs, un écran géant de télévision. Il y avait des coussins, même dans les toilettes. Je ne mangeais pas avec les autres prisonniers. J'avais ma propre cuisine et on me servait des repas très raffinés.
Pourquoi un traitement VIP comme ça? Comment vous expliquez qu'il vous ait traité comme un prisonnier d'exception?
Parce qu'à l'époque, mon histoire, comme je vous l'ai dit, avait été très médiatisée. C'est pour cette raison que les autorités de Chongqing ont eu peur qu'il m'arrive quelque chose. Que je me suicide, par exemple. Et comme les autorités ne pouvaient justifier légalement mon incarcération, j'ai eu ce traitement de faveur. Listen, hero, Mao Zedong. Come this time to work, Mao Zedong. Mao Zedong.
Qu'est-ce que ça signifie?
Zai Chunguo.
C'est la nostalgie de Mao. Premier ministre Wen Jiabao, qui a une phrase est correcte. Ils disent, si on n'entamait pas les réformes politiques, t'as j'ai dit, comme la révolution culturelle qui reproduiserait, peut-être un peu exagéré, mais c'est ça, entamer la démocratisation. de façon radicale, rapide, ou de façon plus douce, plus cruelle, pour reconstruire la légitimité politique des régimes et des partis communistes. Soit on renforce le contrôle sur la société, c'est-à-dire retourne politiquement à l'époque de Mao, fait un régime dur, mais efficace. Entre les deux, il n'y a plus vraiment le milieu, parce que Chongqing montre bien on ne peut plus durablement, éternellement hésiter entre mi-chemin, entre milieu ni maoïste, ni démocratie. Il y a le débat aussi sur qu'est-ce qui s'est passé à l'époque Mao, déclenché aussi par cette nostalgie de Mao. Alors il y a les uns, justement, qui écrivent, qui sortent des livres, articles, qui parlent de tragédies personnelles, nationales, de groupes à l'époque de Mao. Les autres parlent des choses du bien à l'époque de Mao. Le fonctionnaire était moins corrompu, il n'avait pas inégalité sociale comme aujourd'hui. L'industrie nationale était forte, la croissance économique est considérable, etc. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ou, si on ne parlait de croissance sans parler d'épanouissement individu, ça sert quoi? Tout ce genre de débat sur le passé de Chine, c'est important. Et puis, il y a le nationalisme qui fait le sujet de débat aussi, parce que Mao aussi, qui présente comme un symbole de nationalisme de Chine. Mao qui a réuni la Chine. Les autres disent, mais non, d'abord, ce n'est pas Mao. La Chine est déjà réunie après la Deuxième Guerre mondiale. Tout ce genre de débat qui révélait la mémoire collective des Chinois, c'est vraiment très positif.
Si j'aime bien Bosilai, oui, parce qu'il a fait des choses bonnes pour les gens. Et vous, vous aimez Bosilai? Elle est sourde.
She said she also likes him, and I asked why. He said she.
Elle aussi, elle se tient beau pour les mêmes raisons, et leur présence ici, sur cette place, tous les jours, est une façon d'exprimer ce soutien.
Écrivain, poète et musicien, Liao Yiwu va passer 4 années dans les geôles chinoises pour avoir dénoncé la répression des manifestations de la place Tiananmen de 1989. Dans l'Empire des Ténèbres, son dernier livre autobiographique publié cette année, cet exilé qui a trouvé refuge en Allemagne est persona non grata en Chine. C'est à Chongqing qu'il a vécu son incarcération.
Finalement, Bosilai incarnait en quelque sorte les tensions qu'il y avait à l'intérieur du Parti communiste. On remet en avant le maoïsme. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
La période donc des années 80 a été une période très contrastée avec des hauts et des bas. Quant à la suite des événements, vous faites allusion à l'affaire Bosilai en particulier, c'est une affaire très compliquée parce qu'on ne peut pas dire que Bosilai était tenté de restituer le maoïsme, disons comme ça, carrément. Il avait plutôt une attitude ouverte. Ensuite, il a été envoyé à Chongqing. Et là, à Chongqing, sa principale motivation, ça a été, comme on dit, de balayer le noir, c'est-à-dire de faire un grand coup contre la corruption et contre tous les corrompus. Et ces méthodes, moi, j'assimilerais beaucoup plus aux méthodes mafioso que à du maoïsme. Quoi qu'il en soit, que ce soit Mao, que ce soit Deng Xiaoping, ou éventuellement Bosilai et les autres, ce sont tous des dictateurs. Et tous avaient en eux la capacité de réprimer et éventuellement de tuer. Mais au fond, c'est quand même la même essence. Hein. C'est dans tous les cas un régime dictatorial et potentiellement meurtrier.
Il y a cette raison d'État qui le contraint, qu'il ne peut pas facilement franchir cette étape de démobilisation, hein, si vous voulez, complète dans un terme immédiat. Parce que ça lie à une question fondamentale, la légitimité du pouvoir, du régime, quand même. Ah, le portrait de Mao encore à place Tiananmen, quand même, c'est le fondateur de ce régime. Et vous pouvez voir certains signes de nuance à travers le discours de Xi Jinping, par exemple. Et Xi Jinping, personnellement, c'est un victime de Mao. Hein, c'est très dur hein, qu'il a vécu. Son père était critiqué. Il a subi dès tout jeune âge de cette politique de Mao. Et donc, je ne pense pas qu'il a une sympathie envers Mao. Mais en tant que successeur, il est obligé, en quelque sorte, de défendre Mao, c'est aussi défendre son pouvoir. Au fond, à quel moment il peut franchir une étape, et récemment, au mois de son discours, par exemple, il a cité plusieurs vers poèmes de Mao, hein, mais il n'a jamais prononcé le mot de Mao. Vous voyez, c'est ce jeu de rhétorique qu'il joue. Et à la fois, il essaie de jouer, je suis un pont hein, héritier de ce régime face à toutes ces forces conservatrices, même ces forces new-maoïstes, etc. Mais en même temps, il sait que très bien, la Chine, ça sera une catastrophe si on retourne sur la ligne de Mao.
Gao Qian, artiste contemporain contestataire.
La Chine est un pays ridicule où tous les opposés se rencontrent. Il y a beaucoup de choses merdiques que les gens adorent plus que tout. Tout ça parce que les responsabilités de Mao n'ont pas été établies et que les gens ne connaissent pas la vérité.
In Mao's philosophy, the people's enemy was the landlord, the rich farmer, the intellectual, the bureaucrat, and naturally the West. For him personally, the enemy also included the old Communist Party of China that he himself had built but no longer controlled. There was only one way out. He must destroy China, to remake China, to save China.
Merci à Miss Su, Messieurs Han, Ding, Zhu, He, Li et Yun. Merci également à Tai Chungguo, Zhang Lun, Li Juan, Gao Tian et Lao Yiwu, ainsi qu'à Lei Dongfang. Merci enfin à Zhao Rongchun, à Yang Yang et à Orange Chen et aux voix de France Culture pour les traductions. Chongqing, Bosilai n'avait qu'à bien se tenir. Un documentaire d'Anne Franchini, Jean-Michel Coqui et Alain Lefkovitch. Dans un instant, suite et fin de cette seconde matinée consacrée à cette Chine dans l'ombre de Mao, avec un débat toujours enregistré dans ce studio improvisé dans un appartement pékinois, avec aujourd'hui la question des Jiaqing, les jeunes instruits. 17 millions de Chinois, victimes d'un des mouvements les plus radicaux lancés par la République populaire de Chine. De 1968 à la fin des années 70, ce phénomène unique a autoritairement transformé ces jeunes citadins en paysans, faisant d'eux ce que les sinologues appellent la génération sacrifiée.